des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Damien Leguet.
Damien Leguet qui va s'entretenir maintenant avec Rémi Brague qui a reçu le 3 décembre dernier le Grand Prix de philosophie de l'Académie française.
Rémi Brague, bonjour.
Bonjour et merci.
Donc vous êtes professeur de philosophie médiévale à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et professeur de philosophie de la religion à l'Université de Munich.
Plus exactement, il y a une nuance, professeur de philosophie des religions. Et plus spécialement encore, je me considère habilité à risquer de parler du christianisme, du judaïsme et de l'islam. Les religions orientales me sont inconnues, non pas par mépris, mais simplement parce que je n'ai jamais pris la peine d'apprendre, de faire l'investissement linguistique nécessaire pour y avoir accès.
Alors de plus, vous êtes, on peut dire, un catholique engagé, vous êtes un des fondateurs de la revue Communio et vous êtes un des membres de l'Académie catholique de France qui vient de se créer et qui est en train de se constituer et de se réunir.
Oui, donc j'en serai membre quand elle existera. Enfin, elle est encore virtuelle, si je puis dire.
Alors, nous voudrions donc pour cette occasion-là mieux vous connaître et mieux connaître votre œuvre. Alors, on peut dire que le premier livre qui vous a fait connaître du grand public, c'est le livre donc « Europe, la voie romaine » en 1992, qui était un essai sur l'idée européenne et son évolution et qui a été traduit en 12 langues, peut-être plus maintenant, mais enfin au moins 12 langues. Après ce livre-là, qui est un livre, disons, un peu emblématique, je distingue deux blocs. Le premier, c'est, disons, les livres relatifs au monde grec. Il y a 4 livres, dont en particulier votre thèse, donc Aristote et la question du monde, en 1986, qui a été republié en 2009 au CERF, et qui a été particulièrement remarqué, ce livre, par Paul Ricoeur, qui parle, je cite Paul Ricoeur, d'un immense travail, et au sujet du dernier chapitre, d'un remarquable chapitre. Après, il y a un autre livre, donc Introduction au monde grec, en 2005. Donc ça, c'est, disons, sans parler des autres, c'est le bloc du monde grec. Il y a une trilogie, 3 livres, mais qui ne sont pas tous écrits. Donc, Sagesse du monde, 1999, sur l'expérience humaine de l'univers. La loi de Dieu, 2005, l'histoire de l'alliance donc, entre Dieu et les hommes. Et puis, un troisième livre, qui serait plus, si j'ai bien compris, sur la question de la loi et de la modernité, et livre sur lequel vous êtes encore en train de travailler. Alors j'ajoute à ces deux blocs-là 2 autres livres qui sont, on peut dire ça comme ça, plus du dialogue, enfin qui met en évidence un dialogue entre les 3 religions dites monothéistes et la spécificité de chacune d'entre elles. Donc il y a un livre qui est maintenant en poche qui s'appelle « Au moyen du Moyen-Âge 2006 », donc nouvelle édition en poche, et qui essaye de bien montrer l'apport du Moyen-Âge et l'apport dans ce Moyen-Âge du christianisme, du judaïsme et de l'islam. Et puis un livre donc du Dieu des chrétiens et d'un ou deux autres, Flammarion 2008, et qui va sortir donc en poche maintenant chez GF. Et questions portant relatives enfin, à la question des 3 monothéismes. Est-ce qu'il y a 3 monothéismes? Est-ce que c'est le même Dieu, pas le même Dieu? Est-ce qu'on reste dans une forme de syncrétisme flou ou est-ce qu'on essaye, comme vous le faites, de mieux travailler ces 3 questions-là? Alors, que dire de façon générale de votre œuvre? On peut dire d'une part que vous êtes religieusement trilingue, c'est-à-dire que vous parlez à la fois le judaïsme, à la fois le christianisme et à la fois l'islam. Vous avez travaillé depuis très longtemps sur ces 3 questions-là. Deuxièmement, on peut dire que vous êtes un polyglotte culturel, c'est-à-dire qu'à la fois vous enseignez en France et en Allemagne, vous avez donné des cours aussi ailleurs, vous lisez, alors j'ai peut-être pas tout noté, mais enfin vous lisez l'arabe, l'hébreu, le grec et le latin, et vous parlez allemand, anglais et espagnol, parce que même sur YouTube, il y a un grand entretien avec vous pendant 1 heure en espagnol. Troisième caractéristique, il me semble que votre travail s'est fait par cercle concentrique, par espace culturel. Donc d'abord le monde grec, puis le Moyen-Âge, et maintenant le monde moderne, mais tout ça étant un peu imbriqué, mais par grande étape, on peut dire que ça s'est organisé un peu comme ça. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'unité de votre travail? Et ça me permettra de poser ma première question, mais quelle est la question centrale? Il me semble que la question centrale, telle que j'ai pu la repérer, mais c'est une hypothèse, c'est celle de l'articulation entre l'homme et le monde. On peut dire que chez les Grecs, cette articulation a été cosmique. Au Moyen-Âge, elle était naturelle et divine. Et puis, à un moment donné, cette articulation s'est perdue avec le monde moderne sans que toutes les conséquences de cette désarticulation soient prises en considération. Alors, il semble que vous intervenez de plus en plus dans le débat public. Deux choses semblent vous agacer de plus en plus. Un, l'ignorance de certains intellectuels médiatiques. Je cite une phrase de vous dans « Au moyen du Moyen-Âge ». N'importe quel beau parleur médiatique peut faire en une minute 1000 fois plus pour perpétuer le faux que 10 vies de rats de bibliothèque pour le démasquer. Et effectivement, je fais allusion en particulier à une intervention qui a été la vôtre sur KTO et qui est reprise sur YouTube contre Luc Ferry ou relative à certaines approximations de Luc Ferry au sujet d'Averroès. Ça, c'est la première chose qui semble vous agacer. Et la deuxième, c'est, disons, un certain provincialisme français, vous qui êtes sur tous ces continents culturels à la fois. Et dans ce livre, par exemple, Au moyen du Moyen-Âge, vous remarquez qu'il y a des traductions qui n'ont pas été faites, des auteurs qui sont très importants et qui n'ont pas pénétré encore dans le champ culturel français. Première question, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans cette présentation? Et deuxièmement, je voudrais que vous reveniez un peu sur cette question centrale, à votre avis, quelle est la trame, le fil, la question qui est toujours présente et à laquelle vous essayez de répondre livre après livre.
D'abord, vous me faites bien de l'honneur de vous intéresser ainsi à mon parcours et d'en avoir pris une vue synoptique que moi-même je ne risque de temps en temps. Vous avez eu tout à fait raison de dire que mon parcours est concentrique. Enfin, je suis parti de travaux universitaires, les ponts aux ânes qu'un universitaire doit passer, à savoir le troisième cycle, qui était sur Platon, la thèse d'État sur Aristote, c'est le livre dont vous venez de dire que les éditions du Cerf ont eu la générosité de le ressortir. Bon, je suis donc resté chez les Grecs de la période la plus classique, n'est-ce pas? Les deux grands géants germinaux de la philosophie grecque, Platon et Aristote. Mais en même temps, j'avais commencé très précisément en 1970, donc j'avais 23 ans, l'étude de l'hébreu biblique, simplement pour pouvoir lire l'Ancien Testament. Et puis j'ai élargi cela ensuite à l'hébreu médiéval pour pouvoir lire mes collègues philosophes, si je puis dire, même si je ne veux pas me comparer à eux. De fil en aiguille, je me suis aperçu que les plus grands penseurs que l'on peut appeler philosophes du judaïsme médiéval, à savoir Maïmonide, Yehuda Halevi et quelques autres, avaient écrit avant tout en arabe. J'ai donc repris mon bâton de pèlerin étudiant. Je suis allé user mes fonds de culotte à l'école des langues orientales, où j'ai appris un peu d'arabe. Je ne dirais pas que je connais l'arabe. Tout court d'ailleurs, je crois que personne ne se vanterait de pouvoir connaître à fond une langue aussi riche. En tout cas, j'en sais suffisamment pour lire ce qui m'intéresse, à savoir les philosophes médiévaux. Deuxième remarque, et vous l'avez faite, finalement j'ai découvert ma question directrice assez tard. Enfin, il y a des gens qui ont la chance d'être en possession quasiment dès l'adolescence de la question qui va les tenir en haleine pendant toute leur vie. Bergson disait qu'un philosophe n'avait jamais qu'une seule pensée et qu'il la ruminait, la reprenait sous divers angles. Ceux qui ont le malheur d'avoir plusieurs idées étant peut-être d'une qualité un petit peu moindre. Cette idée donc centrale, ben vous l'avez bien définie, c'est la question, bon là je vais être un petit peu prétentieux, ben c'est la question qu'est-ce que l'homme tout simplement, enfin qu'est-ce que c'est que cet animal qui a des normes ? Que cet animal qui sait qu'il ne peut pas se comporter n'importe comment, enfin qu'il ne doit pas, ne serait-ce que parce qu'il ne le peut pas, suivre ce qui chez les animaux est baptisé bien pompeusement l'instinct, on ne sait pas trop ce que c'est, mais enfin ça existe et ça les aide bien. Nous autres hommes, ben, nous devons nous demander à chaque fois quelle est la bonne manière de procéder. Et l'ensemble de toutes les réponses à ces questions, quelle est la bonne manière de faire la cuisine ? Quelle est la bonne manière de choisir son conjoint ? Quelle est la bonne manière de gouverner la cité ? Quelle est la bonne manière d'échanger les marchandises ? Etc. etc. Cela forme l'immense édifice de ce que l'on appelle la culture. Alors tout en haut peut-être, bon, il y a la littérature et l'art, mais il y a aussi la cuisine, les règles de politesse, le langage qui est aussi gouverné par le principe « ne dites pas mais dites ». même si c'est implicite et que nous apprenons cela au tout début de notre vie. Donc c'est la question, qu'est-ce que c'est qu'un être culturel? Et est-ce que toutes ces règles, toutes ces normes qui gouvernent l'ensemble de la vie humaine en tant qu'elle est humaine, est-ce qu'elles ont un rapport à autre chose que l'humain? Donc, dans mon premier livre, dans le premier livre de la trilogie, sous le troisième volume de laquelle je suis Sangeo actuellement, le premier volume se demandait est-ce qu'il y a une origine ou un ancrage ou une référence, ou comme on voudra dire, des normes du comportement humain du côté de l'univers physique. En d'autres termes, est-ce que la façon dont le monde fonctionne, dont les sphères célestes, selon la cosmologie antique et médiévale, tournent, et elles tournent bien rond, peut nous servir d'aide, ou à tout le moins de garantie, pour l'effort par lequel nous nous efforçons que cela tourne rond, avec jeu de mots, dans les affaires humaines? Le deuxième volume, donc « La loi de Dieu », je suis désolé, ces titres sont parfaitement immodestes, mais je n'en ai pas trouvé de meilleur, et surtout de plus concis. Le parallèle étant voulu, bien entendu, n'est-ce pas? Là, quelque chose de quelque chose. Le deuxième volume se tournait, avec la même question en poche, vers le théologique, non plus vers le cosmologique, mais vers le théologique. Enfin, quel sens cela a de dire que les normes selon lesquelles nous vivons ont quelque chose de divin? Alors je m'exprime là d'une manière un peu vague, mais à dessein, parce que cela ne veut pas nécessairement dire que ces règles seraient des commandements divins. En prenant un petit peu de distance et en retournant un peu vers ma chère Grèce, j'ai pu constater qu'il y avait là-bas l'idée d'une loi divine, mais sans du tout qu'il y ait l'idée d'un dieu législateur. Les lois sont divines, un peu comme la nature est divine, bon. Mais ce n'est pas composé de commandements, il n'y a pas de commandement de Zeus, n'est-ce pas? Bon. Il y a un très joli passage de l'Odyssée dans lequel, au tout début, lequel Zeus se plaint de ce que les hommes rendent les dieux responsables de tous leurs malheurs, et il dit, bah bien sûr, bon, il y a des embêtements pour la vie humaine, mais ils en rajoutent en faisant mille bêtises. Et il donne comme exemple, bah voyez, j'ai averti Égiste de ne pas toucher à Clytemnestre, à la femme d'Agamemnon. Eh bien, il y a touché quand même. Au retour d'Agamemnon, ils se sont mis à deux pour le trucider. Et puis ensuite, ben voilà, le petit Oreste, qu'il croyait avoir abandonné, est revenu et a tué les deux, sa mère et puis l'amant de celle-ci. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, il dit « je lui avais dit que c'était pas bien de commettre un adultère ». Il le savait déjà. Ce qu'il lui a dit, c'est simplement un avertissement. Attention, si tu fais ça, il va t'en cuire, et il n'a pas écouté. Donc on a une loi d'origine divine, mais qui ne se présente pas du tout comme un commandement donné dans le tonnerre et les éclairs au mont Sinaï. Cette idée-là, elle apparaît avec l'autre pilier de la culture occidentale. Vous connaissez la rengaine Athènes et Jérusalem. Là, nous sommes vraiment du côté de Jérusalem et on voit apparaître l'idée d'une loi eh bien, qui est édictée par Dieu. Idée qui se développe ensuite dans l'islam et trouve en même temps, à l'intérieur même du philum juif, enfin de la descendance juive, une nuance très forte dans le christianisme et spécialement dans la compréhension du fait chrétien par saint Paul, qui d'une certaine manière revient à la conception grecque d'une loi qui n'aurait pas besoin d'être promulguée autrement que par la dictée intérieure de la conscience. Un concept que le judaïsme et que l'islam laissent un petit peu en lisière, en même temps qu'ils laissent en lisière le concept de nature. La conscience est aussi un peu une sorte de voix de la nature humaine, de voix divine de la nature humaine, et qui nous dit surtout d'éviter le mal, éventuellement de faire le bien. Ces deux histoires, donc, ces deux liaisons, se terminent toutes par un divorce. L'histoire de l'ancrage cosmologique des normes humaines se termine à partir du moment où, avec la révolution astronomique, et peut-être plus encore avec la révolution biologique, hein, nous sommes dans l'année Darwin, donc il faut en parler, se termine lorsque on se rend compte que la nature se conduit d'une manière pas tellement honnête. C'est la loi du plus fort Ça, les anciens savaient déjà que les petits poissons étaient mangés par les gros. Ils savaient déjà que Dieu donnait la victoire aux gros bataillons sur les petits et des choses de ce genre-là. Mais ils pouvaient faire appel. Ils faisaient appel à l'ordre magnifique des sphères célestes. Ici-bas, dans ce petit cachot qu'est le nôtre et qui n'est qu'un point mathématique par rapport à la totalité de l'univers, même de l'univers connu à l'époque, qui était beaucoup plus petit que celui que nous connaissons maintenant, eh bien, dans ce petit cachot, ça va à la va comme je te pousse. Mais qu'est-ce que c'est que cela par rapport à l'immensité de l'ordre et de la beauté? C'est ça que veut dire en grec « cosmos », dont nous sommes témoins dès que nous levons les yeux par une nuit étoilée. Alors avec la modernité, eh bien, il s'avère que le ciel fonctionne de la même manière que la Terre, que les gros astres attirent les petits comme les gros poissons attirent les petits, et que finalement, si les petits astres réussissent à échapper à la gloutonnerie des gros, c'est parce que, au sens propre, ils essayent de prendre la tangente. Le beau mouvement circulaire ou elliptique après Kepler des corps célestes n'est que la résultante d'une convoitise et d'un instinct de conservation. La convoitise des gros, le Soleil par exemple, ou la Terre, et puis l'instinct de conservation réussi dans le cas des planètes et raté dans le cas de la pomme qui est tombée sur le caquet de ce pauvre Newton.
Donc ça c'est le premier divorce ?
C'est le premier divorce. Les normes humaines ne peuvent plus avoir d'ancrage cosmologique. On ne peut plus fixer le bel ordre de l'univers comme modèle, ou en tout cas comme garantie de l'identité, de l'être et du bien. On a un second divorce déjà avec le christianisme paulinien, dont j'ai dit qu'il ne faisait pas dépendre les règles de commandements divins. Les commandements divins, c'est saint Thomas d'Aquin qui le dit, ne font que rappeler à l'homme toujours tenté de les oublier pour mille et mille raisons, les passions et autres, il rappelle à l'homme oublieux des règles qu'il devrait en principe pouvoir connaître parce qu'elles constituent le kit de survie de l'humanité, ou en tout cas de l'humanité civilisée, de l'humanité véritablement humaine. Alors cette idée-là donc a déjà été ébranlée par le christianisme au profit de l'idée de loi naturelle, mais la nature, que devient-elle au temps moderne ? Alors avec la modernité, on renonce à l'idée de loi divine au profit d'une conception selon laquelle l'unique législateur, c'est la communauté humaine qui se donne les règles qui lui permettront de coexister de façon à peu près harmonieuse, d'éviter que les gens ne s'avalent les uns les autres tout cru, comme dit un passage du Talmud, le Pirkei Avos, très précisément. Je suis donc arrivé à la fin de ces deux livres sur l'idée suivant laquelle les normes, c'est-à-dire les règles que l'homme devrait respecter pour être pleinement homme, pourrait n'avoir d'origine ni naturelle, ni cosmologique, ni divine, ni théologique. Alors, question, qu'est-ce que c'est qu'une humanité qui essaye de se définir entièrement par elle-même, sans loucher vers la transcendance d'une nature ou la transcendance d'une divinité, et qui, corrélativement, je crois que les deux ne sont pas nécessairement liés, mais dans les faits, ils s'appellent, une humanité qui se donne comme projet central la domination de la nature. C'est-à-dire, il y aurait, si vous voulez, une première prise de contrôle de l'humanité par elle-même, mais elle devrait, étant donné que l'homme a un enracinement naturel absolument évident, nous respirons, nous mangeons, le métabolisme, comme on dit, la tentative de prise de contrôle, qui est d'abord une prise de contrôle conceptuelle, tentative de la part de l'homme de se définir lui-même, débouche sur une entreprise beaucoup plus concrète, qui est la prise de contrôle de la nature. Idée qui n'existait pas dans l'Antiquité.
Donc on amorce le troisième tome de votre trilogie, qui est en gestation, et qui portera, si j'ai bien compris, sur la critique que vous faites de cette désarticulation. Désarticulation entre l'homme et le monde. Enfin, le monde étant ce qui accueille, ce qui reçoit, ce qui porte, cet au-delà ou cet en deçà de l'homme qui lui permet d'exister pleinement. Et vous, vous préférez plutôt l'articulation plutôt que la rupture. Et on se souvient donc que dans La Voix romaine, vous disiez, vous mettiez en avant la posture classique, l'homme européen, qui était, je vous cite, « avoir en amont de soi un classicisme à imiter et en aval de soi une barbarie à soumettre ». Donc l'idée que l'on vient après. Et on a remplacé cela d'une façon par, disons, une conscience plus du propriétaire qui n'a pas conscience d'être un usufruitier. Donc ce qui s'est perdu, dites-vous, c'est la conscience, l'idée de la piété au sens de Virgile. Donc ma première question, c'est qu'est-ce que vous reprochez ou quels sont à votre avis les éléments les plus problématiques, disons, du mouvement d'émancipation des Lumières? Qu'est-ce que ce mouvement des Lumières a de prétentions exorbitantes par rapport à cette articulation d'avant qui devient aujourd'hui, avec ce que Kant a bien thématisé entre l'autonomie et l'hétéronomie, une séparation? Qu'est-ce que vous reprochez aux Lumières de ce point de vue-là?
Déjà, une question de fait. Ce livre, bon, je souffre dessous en ce moment parce qu'il supposerait des lectures qu'une vie humaine ne suffirait pas à accomplir. Donc je suis obligé, peut-être encore plus que pour les deux précédents, de procéder par coup de sonde, n'est-ce pas ? Avec toujours cette angoisse de se dire peut-être que justement il y a une baleine qui m'attend alors que j'ai justement jeté mon filet à côté, attrapant quelques sardines. Ensuite, bon, ce livre devrait s'appeler, en un parallèle tout à fait conscient avec les titres des deux précédents, « Le règne de l'homme ». Et son contenu ne devrait pas être une critique de la modernité. Là, je ferai quelques réserves sur ce mot. Ou alors, je prendrai le terme de critique, d'ailleurs en son sens kantien, puisque vous avez cité Kant. Il s'agit de cribler, non pas de cribler de balles, mais de tamiser, c'est-à-dire de garder le bon grain, garder le froment, et puis de rejeter le son, n'est-ce pas ? Comme on le fait quand on tamise. Je me méfie, si vous voulez, de ce terme critique parce que nous avons pris l'habitude, pour des raisons variées, de penser d'une manière un peu binaire et de dire, bon, je pense au sondage d'opinion, vous êtes pour ou contre ? Bon, alors ça dépend, hein. Comme on dit sublimement dans Le Père Noël est une ordure, ça dépend, ça dépasse. Bon, ça dépasse toujours quand ça sort des cadres, quand on essaye de nuancer les choses. Alors ce que j'essaye de faire, bien entendu, ce n'est pas du tout une critique de la modernité, c'est d'abord une description, je raconte, bon, je décris, j'essaye de distinguer selon les époques, selon les tendances, puisque ça ne s'est pas toujours passé de la même façon dans tous les endroits. Enfin bon. Si critique il doit y avoir, cela ne saurait consister qu'à montrer comment ce que j'appelle le projet moderne, la formule n'est pas de moi je crois, comment le projet moderne risque de s'autodétruire. Donc il ne s'agit pas, si vous voulez, d'une critique réactionnaire de l'extérieur, disant « Ah là là, regardez ce que nous avons perdu, comme c'était mieux, enfin le bon beurre d'avant la guerre, quoi. » Non, ce qui me frappe, c'est plutôt justement la manière dont nous voyons ce projet se déliter, presque faute de combattants. Parce que le combattant suprême, pas d'allusion, à savoir l'homme dans sa lutte contre la nature, on vient à douter de sa propre humanité, voire de la déraciner ou de scier la fameuse branche, n'est-ce pas, sur laquelle on est assis. Un petit symptôme, si vous voulez, de cela. Le projet moderne a été formulé au début du XVIIe siècle par Francis Bacon, le chancelier anglais, philosophe amateur, très mauvais savant, mais tambourinaire de ce projet. Et c'est à lui d'ailleurs que j'emprunte l'expression « le règne de l'homme ». Puisque dans le Novum Organon, son œuvre centrale sans doute, il parle bon, en latin du Regnum Hominis, n'est-ce pas ? Qu'il met en parallèle d'une manière assez amusante avec le royaume des cieux dont il est question dans les évangiles. Donc c'est Bacon qui formule ça, et il est repris en écho par Descartes dans la sixième partie du discours de la méthode, où il y a la formule ultra célèbre, suivant laquelle l'homme, grâce à la méthode que Descartes lui apporte, devrait pouvoir devenir comme maître et possesseur de la nature. Bon, tout le monde connaît ça. Donc, ça commence en fanfare. Et puis, à peine deux siècles et demi plus tard, vous lisez, placé par Nietzsche dans la bouche de son Zarathoustra, la formule suivant laquelle l'homme est quelque chose qui doit être dépassé. Il voulait dire par là, bon, ça impliquerait une reprise de toute la philosophie de Nietzsche, je n'ai pas les moyens de faire cela actuellement, et pas seulement pour des raisons de temps, mais aussi de compétences. En tout cas, il y a des tas de gens qui l'ont pris au sérieux, qui s'ingénient de plus en plus à montrer que du darwinisme avec lequel Nietzsche lui-même flirtait, même s'il s'en est défendu à la fin de sa vie, on peut tirer l'idée suivant laquelle l'homme n'est finalement rien d'autre que un hasard heureux. Bon, le hasard et la nécessité, pour citer le livre célèbre de Jacques Monod de 1970, je crois, de ces années-là, nous a présenté. De plus en plus, on a alors cette tentative pour ce malin plaisir presque à humilier l'homme, dont on dit en même temps, de façon de plus en plus bruyante et puissamment orchestrée, qu'il a une dignité, qu'il a des droits, qu'il mérite une majuscule. Enfin, il y a l'homme avec un H comme début de rugby. On se demande si ça peut vraiment tenir. Il y a même des gens, je ne sais pas si c'est du domaine du rêve ou du cauchemar, qui parle simplement de refaire la copie. Enfin, de l'homme n'est pas vraiment ce qu'il pourrait être, donc on va, à coup de génétique, à coup de biologie, si je puis dire, on va le refaire en mieux. Avec cette question qui est déjà chez Marx dans la 9e thèse sur Feuerbach, qui va éduquer les éducateurs. Ces hommes qui voudraient fabriquer un homme nouveau sont jusqu'à nouvel ordre des hommes anciens. Est-ce qu'on n'est pas sûr qu'ils ne vont pas nous fabriquer, à supposer qu'ils le puissent, je suis totalement incapable de dire si ça peut être le cas, est-ce qu'ils ne vont pas nous fabriquer quelque chose de bien pire que cet homme tel qu'il est, tel qu'il essaye tant bien que mal de se débrouiller dans ce vaste monde? Donc, si critique il doit y avoir, le livre est en cours de fabrication. Je n'ai pas la solution avant d'écrire les bouquins. Le nom de l'assassin vient de l'enquête. Il n'y a pas de prévenu avant l'enquête. Si critique il doit y avoir, cela ne pourra être qu'une sorte d'autocritique qui devra, bien entendu, rester très consciente de tous les acquis de la modernité que je distingue du reste et d'ailleurs du projet moderne de prise de contrôle de l'homme par lui-même et de prise de contrôle de la nature. Ce qu'on appelle très souvent la modernité, à savoir, l'humanisation des conditions, par exemple l'humanisation des punitions, ça n'a l'air de rien, mais c'est tout à fait, si j'ose dire, capital, l'adjectif est très mal choisi, cela résulte d'un processus qui est déjà médiéval, qui est bien antérieur. Alors il faudra aussi démêler les torrents de ce que l'on appelle la modernité, de ce que l'on appelle les lumières, vous avez employé l'expression tout à l'heure, pour montrer ce qui est dans le droit fil du projet moderne et puis ce qui s'enracine peut-être ailleurs et en tout cas plus en amont.
Nous allons observer une petite page musicale et nous reprenons notre entretien.
Escalope d'éléphant, sauce aux échalotes, singe au vin de Bordeaux, ou encore ours à la sauce troussonnelle, tel pouvait être le menu du réveillon du 31 décembre 1870. Il faut dire que le siège de Paris a donné lieu à de bien curieuses expériences gastronomiques. Écoutez le curieux récit de cette période de l'histoire, elle vous est racontée par notre chroniqueur gastronomique Jean Vitaud. Les expériences gastronomiques du siège de 1870, une émission à télécharger librement sur le site de canalacademy.com.
Donc nous reprenons l'entretien avec Rémy Brague et on a essayé de voir dans cette première partie ce qu'il en était de votre projet et de votre critique au sens kantien de cette modernité. Vous dites le projet moderne donc risque de s'autodétruire. Donc quelle est cette difficulté interne à la modernité elle-même qui risque effectivement de détruire l'homme? Alors, dans une conférence récente que vous avez donnée à l'Université de tous les savoirs, vous reprenez ou vous prenez cette question de l'humanisme et vous dites, pour penser cette difficulté de l'articulation, vous voulez vous voir l'homme plutôt comme un plénipotentiaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a pleine possession, plein pouvoir, mais qui représente aussi les intérêts de celui ou de ce qui est au-dessus, Dieu, la nature. Alors la question, c'est, vous dites effectivement, on ne peut pas revenir en arrière, le monde d'avant est perdu. Comment est-ce qu'on peut articuler à la fois l'acceptation du monde moderne tel qu'il est, sans revenir en arrière, tout en considérant l'homme comme un plénipotentiaire, ce qui est une attitude, disons, ancienne, celui qui est redevable, qui est une dette, qui est porte-parole, qui est lieutenant, qui a plein pouvoir, mais qui sait qu'il doit son pouvoir à quelqu'un, quelque chose d'extérieur à lui. Alors comment est-ce qu'on fait pour concilier l'ancien et le moderne à la fois ?
Je voudrais déjà faire une remarque. Justement, sur un lieu commun, on ne peut pas revenir en arrière. Alors là, je me donne vraiment des verges pour me faire battre, parce que s'il y a quelque chose que les médias n'aiment pas, c'est quelqu'un qui envisage simplement cette possibilité, n'est-ce pas ? C'est tabou. Je crois que nous confondons très souvent deux choses. D'abord, la flèche du temps est irréversible. Ça, effectivement, on ne pourra pas faire en sorte que les événements n'appartiennent pas au passé. Mais quand on dit revenir en arrière, ça ne veut certainement pas dire que l'on remet le compteur 200 ans ou 400 ans ou 3000 ans en arrière, ce qui serait évidemment impossible. Ne serait-ce que pour cette raison très simple que nous avons une mémoire. Nous, individus, et puis notre culture aussi a une mémoire, comme dit Jan Hassmann. Bon, à supposer que notre civilisation, notre belle civilisation occidentale, soit en train de s'autodétruire, pour des causes plus exactement que j'ignore, est-ce que l'humanité ne serait pas obligée de repartir sur de nouvelles bases, un petit peu comme quand on s'aperçoit qu'on s'est engagé dans une impasse? Je veux dire, l'attitude la plus intelligente, dans ce cas-là, c'est précisément de revenir en arrière, et de revenir à l'embranchement auquel on a pris la mauvaise direction. Alors bien entendu, on ne peut pas revenir en arrière au sens où l'on n'aurait jamais parcouru cette impasse, mais bon, on pourra peut-être faire ça. Et je crois qu'il faut prendre au sérieux tout ce qui se camoufle actuellement sous le nom de fondamentalisme, très vite fait d'expédier ces gens-là, en tout cas intellectuellement parlant, dans les ténèbres extérieures. Mais cela prouve qu'il y a des gens pour lesquels l'idée d'un retour en arrière est tout à fait possible. Je ne partage pas tellement leur représentation, vous l'aurez sans doute deviné, de cet arrière vers lequel il faudrait retourner. Mais je dis, dans certains cas, il y a peut-être des choses sur lesquelles il faudrait revenir. On entend cela chez des gens beaucoup plus calmes, comme les gens qui s'occupent de l'environnement, qui disent, peut-être qu'on ne va pas pouvoir continuer à brûler des ressources naturelles au rythme que l'on pratique actuellement. Je reviens sur ce terme de plénipotentiaire. J'avoue que je l'avais un petit peu oublié, mais le redécouvrant, je trouve avec une immodestie totale que c'est pas mal trouvé. Enfin, c'est une image qui dit à peu près de quoi il s'agit, c'est-à-dire ne pas retourner à supposer que nous ayons jamais été à une sorte de servitude par rapport à la nature. Nos ancêtres étaient quand même terriblement dépendants, par exemple, du temps qu'ils faisaient ou des choses de ce genre-là. Bon, là, je crois qu'on peut, dans des limites raisonnables et sans épuiser la terre, garder beaucoup de choses de la technique moderne. Mais cette idée de plénipotentiaire, donc, ne retire absolument rien à la puissance humaine, mais simplement lui rappelle que cette puissance, elle lui vient d'ailleurs. Or, on peut appeler cet ailleurs de différents noms. On peut l'appeler Dieu, ce qui ne me gênerait absolument pas en ce qui me concerne. On peut l'appeler la nature, que l'on concevra suivant ses goûts, soit comme une échelle graduée statique, comme le faisaient les anciens, soit comme une évolution, alors cette fois chronologique, comme on le fait depuis le XVIIIe et encore plus depuis notre cher Charles Darwin. Mais dans tous les cas, on se concevra comme n'allant pas de soi, comme étant à la tête de la planète, mais sans pouvoir exciper de cette place pour faire n'importe quoi, et surtout pour prétendre que notre humanité ne vient que d'elle-même. Je n'ai pas d'objection contre la représentation des choses de la théorie de l'évolution. Simplement, je crois qu'on peut laisser ouverte la question de savoir si cette évolution a un moteur, qu'on l'appelle Dieu ou non, n'ayant pas une extrême importance. On pourrait très bien se contenter de quelque chose comme l'élan vital de Bergson, qu'il l'appelait Dieu, mais en un sens tout à fait, d'ailleurs dans un seul passage de l'évolution créatrice, d'une manière assez proche de ce Dieu-nature des stoïciens ou de Spinoza. On n'a peut-être pas besoin de mobiliser, si je puis dire, le Dieu biblique, si c'est simplement pour lui faire faire un travail qu'un Dieu nature assez neutre et impersonnel peut très bien accomplir.
Mais cette idée donc du plénipotentiaire, donc c'est l'idée de reconnaître que quelque chose m'échappe, que quelque chose vient d'ailleurs, devient d'avant moi, d'au-dessus de moi, de quelque chose qui n'est pas moi.
D'autant plus que ce quelque chose, c'est moi-même. C'est mon humanité, c'est ce qui fait que je suis homme.
Mais cette idée-là du « vient d'ailleurs oui. », est-ce que ça ne s'oppose pas frontalement, comme vous l'avez indiqué, le projet moderne,
oui.
c'est-à-dire l'idée d'augmenter autant que faire se peut la puissance de l'homme et le contrôle de l'homme sur son environnement d'une part, et deuxièmement, est-ce que ça ne vient pas s'opposer frontalement aussi à cet individu moderne, à cet individualisme tel que décrit et anticipé par Tocqueville et bien mis en évidence aujourd'hui par Marcel Gauchet, donc cet individu maître de lui et qui se détache, se délie, cet individualisme de déliaison dont parle Marcel Gauchet, se délie du groupe. Vous voyez ?
Il y a deux choses là. D'une part, bon, il y a le projet d'un homme maître et possesseur de la nature n'est pas lié intrinsèquement avec la montée de l'individualisme. On peut très bien concevoir la domination de l'homme, et c'est de cette façon que concevaient les pères de l'idée au XVIIe siècle, c'est de cette façon que le concevait un Auguste Comte au XIXe siècle, qui était, comment dire, d'un anti-individualisme rabique, enragé. On peut très bien concevoir cette domination comme étant le fait d'un groupe, d'une élite de l'humanité, voire d'une nation ou de l'ensemble, de la société des nations, de la totalité de l'humanité, du genre humain. Voilà, j'ai trouvé enfin l'expression. Donc il ne faut pas bloquer trop rapidement le problème de l'individualisme et le problème de la domination de la nature. D'autre part, cette idée de l'homme plénipotentiaire, bon, c'est comme je vous l'ai dit, une image à côté d'autres. Hein. J'ai d'autres images pour essayer de saisir, je ne sais pas si j'arriverai à en tirer un concept un petit peu rigoureux. L'idée de piété, dont je rappelle que à l'origine virgilienne du terme, il ne s'agit pas de religion, il s'agit du fait qu'on reconnaît ce que l'on doit tout simplement à ses parents, en particulier à son vieux papa, comme aîné qui porte son vieux père en chise, mais peut-être parce que plus profondément, il sent qu'il est porté par lui, comme il l'a été enfant, et puis qu'il est porté par tout ce qui débouche sur nous. Je dirais qu'on peut avoir de la piété, non seulement pour le primate encore mal défini et mal dégrossi dont nous sommes peut-être sortis, nous pouvons avoir de la piété envers l'ensemble de la vie, nous pouvons avoir de la piété envers la planète, sans pour autant en faire, pour citer Auguste Comte que je viens de mentionner, le grand fétiche. C'est une idée qui revient un petit peu à la mode. Un Anglais qui a inventé une religion de Gaïa, le nom grec de la divinité Terre. Bon, sans aller jusque-là, quand même remarquez que nous avons une sorte de dette. Enfin, le mot n'est pas très adroit, mais enfin bon. Et puis, je voudrais introduire un autre mot. La domination de l'homme sur la nature peut être comprise soit justement comme un projet que l'homme se donne à lui-même, soit, et là on change d'optique, comme une tâche qui nous est proposée, comme quelque chose dont nous recevons d'ailleurs l'injonction d'avoir à la faire. Vous savez qu'il y a eu il y a quelques années une polémique aux États-Unis en particulier sur la responsabilité de la Bible dans les questions écologiques. Après avoir longtemps accusé le judéo-christianisme, comme on dit, d'une manière que j'aime pas trop, parce qu'il y a un trait d'union abusif là, on a reproché à la Bible et aux religions qui en sont sorties d'avoir été des obstacles au progrès technique. Et maintenant que l'on s'aperçoit des limites du progrès technique, il y a des gens qui disent tout ça, c'est la faute à la Bible, c'est la faute à ce Dieu en plus unique et donc intolérant, ce vieux barbu grincheux, qui donne l'ordre à l'homme de croître, de multiplier, de remplir la terre et de la dominer. Je dirais, toute question de respect de la nature et de la vie étant mise à part, je n'ai pas d'objection là contre, que le fait même qu'il s'agisse d'un ordre, ou en tout cas d'un conseil de Dieu, implique qu'il s'agit d'une tâche, et donc d'une tâche qui implique une responsabilité, et pas d'un blanc-seing qui serait donné à l'homme de dévaster son environnement naturel.
Donc vous dites que le souci écologique Donc l'idée qu'on en revient, disons, à une conception malthusienne, si on veut, enfin, de ressources limitées, d'une entreprise qui n'est pas infinie, et donc nous vivons sur un stock et non pas sur quelque chose que l'on peut multiplier à l'infini. Donc cette prise de conscience-là pourrait nous ramener à une conscience plus grande de la responsabilité collective que nous avons d'une part et de cette dépendance à l'égard de la nature, mais qui n'est pas la même nature que celle des Grecs.
J'aime bien l'image que vous avez eue, implicitement, du capital que l'on dépense sans toujours pouvoir le renouveler. Dans mes lectures, je lis pas mal d'auteurs du XIXe siècle, eh bien, je me suis aperçu que la question était déjà posée. Il y a un magnifique passage de Cournot, par exemple, dans lequel il dit que nous devons prendre l'habitude, face au problème du caractère fini des ressources naturelles, il pensait au charbon, le pétrole, c'est le colonel Drake en 1859, je crois qu'il a fait jaillir pour la première fois à Titusville. Mais bon, le problème se repose maintenant pour le pétrole à un bon siècle de distance. Cournot dit, ben voilà, nous devons apprendre à nous concevoir comme les propriétaires de ressources limitées. Nous ne sommes plus des jardiniers, nous sommes des exploitants d'une mine, et d'une mine qui peut très bien s'épuiser. Et intellectuellement parlant, chose intéressante, il y a de plus en plus de bons esprits en Europe qui se posent la question de savoir si nous ne vivrions pas, nous aussi, intellectuellement parlant, sur un capital que nous sommes incapables de reproduire. Bon, de l'écologie, je ne connais pas grand-chose. Je connais ce que connaît le citoyen lambda, un petit peu conscient de ce qu'il fait, qui essaye de ne pas trop polluer avec sa voiture, des choses de ce genre-là. Mais il y a aussi, pourrait-on dire, une écologie de la vie intellectuelle qui doit attirer notre attention sur le fait que nous vivons peut-être de valeurs que nous présupposons comme allant de soi, mais que nous prenons en même temps un malin plaisir à saper. Il y a en Allemagne une thèse absolument célèbre qui a été soutenue par Ernst Wolfgang Böckenförde. C'est un des plus grands juristes allemands qui a été juge à cette espèce de tribunal suprême qui siège à Karlsruhe. Et cette thèse, c'est que nos démocraties, pas la démocratie athénienne, mais les démocraties dans lesquelles nous avons la chance de vivre, eh bien, se nourrissent de présupposés, disons, idéologiques, enfin, de valeurs, d'habitudes morales qu'elles sont incapables de reproduire. Et même qu'elles ont tendance à détruire de façon tendancielle. Un autre philosophe allemand, le plus connu actuellement, Jürgen Habermas, a fait remarquer, dans une phrase un petit peu sèche, que l'Occident et notre vie morale dépend du christianisme, et tout le reste, ajoute-t-il, c'est du blabla postmoderne. Je crois qu'il faut aussi se demander si, au cœur même de la question de l'humanité de l'homme, abstraction faite de son rapport à la nature, pacifique ou conquérant, au cœur même de l'humanité de l'homme, où sont peut-être à l'œuvre une ou des dialectiques autodestructrices.
Nous allons observer une petite page musicale et nous reprenons juste après.
Saviez-vous que le peintre Claude Monet fut un grand collectionneur d'estampes japonaises ? Cette collection dévoile les liens que l'on peut établir entre l'univers des estampes et celui de Claude Monet. Exemple avec sa toile emblématique, impression au soleil levant, composée de ponts japonais, de glycines et de nymphéas. Le peintre était un paysagiste passionné par les jardins d'eau exotiques, japonisants et propices à la rêverie. Cette émission Carrefour des Arts est en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com.
Donc nous reprenons notre entretien avec Rémy Bragg sur cette critique du projet moderne et ce risque qu'à l'homme de s'auto-détruire, qui est effectivement un peu le fil conducteur, semble-t-il, de votre œuvre. Et je voudrais en revenir, donc on était sur effectivement cette question d'une modernité qui prendrait aujourd'hui de plus en plus conscience, peut-être, de ses responsabilités, et cette idée qui est la vôtre d'un homme plénipotentiaire, donc qui a conscience d'être redevable de quelque chose à quelque chose qui lui échapperait. Alors la question, si on continue là-dessus, est la suivante, c'est la question de ce qui est au cœur de la modernité, c'est la raison, l'idée que on doit croire au progrès, on doit croire à la raison. Donc ma question est la suivante, c'est d'une part, est-ce que cette raison n'est pas ce qui doit être interrogé en premier dans la critique kantienne que vous faites de la modernité d'une part? Et deuxièmement, vous semblez maintenir un équilibre entre une raison dont les prétentions un peu folles, disons, peut vous amener à être un peu incroyant de cette dite raison, d'une part. Et deuxièmement, au sujet de la croyance, qui serait l'autre pôle, enfin de la croyance, vous n'estimez pas tellement, dites-vous dans le très bel entretien, et je renvoie nos auditeurs à cela, le très bel entretien que vous accordez au début de « Au moyen du Moyen-Âge » pour expliquer un peu effectivement votre projet et pour introduire à tous ces textes sur le Moyen-Âge. Donc sur cette croyance, vous n'avez pas d'estime, dites-vous, pour la croyance en tant que telle. Donc que faut-il penser de cet équilibre difficile entre la raison qui s'est instaurée avec un grand R pour lutter contre les croyances mauvaises et qui maintient l'homme dans son état d'ignorance, d'une part, et deuxièmement, est-ce que le fait de diminuer la raison ou les prétentions de la raison, est-ce que ça ne réouvre pas la porte à des croyances que vous-même voulez tenir à distance ?
Mon projet, si je puis l'élever quelques instants à la lumière de la conscience, est exactement le contraire de celui qui consisterait à humilier la raison superbe, pour citer Pascal, je crois. Non, à mon avis, la raison, tout au contraire, souffre actuellement d'un manque d'ambition, puisqu'elle accepte de se limiter à une de ses formes qui, même si elle est spectaculairement triomphante, ne constitue qu'un aspect de la rationalité. Je parle bien entendu même pas tellement de la rationalité scientifique, mais de la rationalité technico-scientifique, puisque maintenant, il est très difficile de distinguer encore une science pure, qui contenterait de regarder les phénomènes, ça c'était encore possible au XVIIe siècle, et puis une technologie qui intervient dessus, puisque sans technologie, nous n'aurions pas d'instrument nous permettant de voir, et la légitimation sociale de l'activité scientifique de nos jours est de plus en plus de nature technique. Donc, nous avons une raison puissante, efficace, qui est une usine à fabriquer de la vérité qui tourne à plein régime, et je n'ai pas d'objection contre elle, mais je ne voudrais pas que l'on oublie d'autres formes de raison. Écoutez, prenez un exemple, la raison juridique. La raison juridique ne fonctionne pas du tout comme la raison du physicien ou du biologiste. Et pourtant, elle atteint des degrés de raffinement, de subtilité, qui, je dois bien l'avouer en tant que philosophe, parfois me font un petit peu honte. J'ai l'impression que les juristes, parfois, sont plus fins dans les distinctions qu'ils pratiquent que mes collègues, que moi, je me mets dans le même panier. Il est d'ailleurs très intéressant de voir à quel point c'est finalement le droit qui, à partir du XIe siècle, a été le moteur du décollage intellectuel européen. On a fait appel à la philosophie, et par exemple, on a fait réentrer l'Aristote que l'on avait perdu, directement à partir du grec ou à partir de traductions arabes. On a fait réentrer Aristote parce qu'on avait besoin de rationalité, et on avait besoin de rationalité pour construire des systèmes juridiques. Et pas pour autre chose, par exemple, pour faire de la science. Bon, la raison morale, quand je me demande, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je vais faire ceci ou plutôt cela? Il y a des cas assez simples, il y en a qui sont très compliqués. J'espère qu'on ne raisonne pas avec ses tripes. Ce n'est pas l'affect brut de décoffrage qui doit parler ici, c'est la raison. Et je rappelle en passant, ce qui pour des philosophes est une évidence, que pour Kant, dont nous avons déjà parlé, la raison n'est véritablement elle-même que dans le domaine de la pratique, c'est-à-dire que lorsqu'elle nous dit ce que nous avons à faire, lorsqu'elle est morale, lorsqu'elle est théorique, elle n'est pas chez elle. Et comme quand on le fait quand on n'est pas chez soi, elle se prend les pieds dans le tapis, elle se cogne au meuble, elle ne se baisse pas suffisamment pour passer une porte. Bon, il lui arrive des quantités de malheurs que Kant décrit dans la dialectique transcendantale de sa critique de la raison pure. C'est parce qu'elle n'est pas chez soi qu'il lui arrive ce genre de déboire. Alors que lorsqu'elle est dans le domaine moral, elle peut se permettre de légiférer en toute souveraineté, et c'est là qu'elle est véritablement elle-même. Donc, attention, non seulement je n'attaque pas la raison, mais je la défends. Je la défends, je ne sais pas si je l'illustre, mais enfin je la défends. Et je me permettrai de citer un auteur que j'aime beaucoup parce que c'est un humoriste, à savoir Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, l'écrivain anglais du début du XXe siècle, qui, dans une nouvelle policière, fait démasquer par le prêtre qui est son Sherlock Holmes à lui, le père Brown, un imposteur déguisé en prêtre, justement. Et une fois démasqué, l'aigrefin en question, qui d'ailleurs est destiné à devenir le meilleur ami du prêtre, mais ça il ne le sait pas encore, demande « Comment vous avez fait pour me démasquer ?» Et le père Brown répond de sa petite voix, flûtée, ben, « Vous avez parlé contre la raison, et c'est de la mauvaise théologie. » On identifie le mauvais théologien en ce qu'il cherche à abaisser la raison, puisque le brave escroc là, avait mimé ce qu'il croyait être le christianisme le plus authentique, en tonnant contre, comme dirait Flaubert, la raison. Et en fait, non, le christianisme est une religion qui commence par dire au début du quatrième évangile, au commencement était le logos. On peut traduire, sans du tout forcer les mots, au commencement était la raison. Dieu se soumet à la raison. Dieu est raison. Il n'agit pas par pur caprice.
Donc votre idée, c'est bien de dire, non pas humiliation de la raison, mais quoi, redéploiement de la raison sur des domaines qui, pour l'instant, souffrent plutôt d'atrophie, c'est-à-dire, et vous avez pris trois exemples, la raison juridique, la raison morale et la raison spirituelle.
Si vous voulez, il faut lâcher la raison, la lâcher comme on lâche les chiens, n'est-ce pas ? Il faut lui laisser libre cours et ne pas se contenter de la canaliser, je l'ai dit, dans ce domaine où elle est effectivement très puissante, où elle marche bien. Il n'y a pas d'objection à faire à la science en tant que telle, mais bon, ça n'est qu'un des aspects de la rationalité humaine qui est bien plus vaste.
Vous avez insisté à la fin donc sur cette idée que la religion chrétienne en particulier déployait, redéployait ou déployait autrement la raison, alors que tout le mouvement des Lumières, ou une partie du mouvement des Lumières, celui du moins qui peut-être a surnagé, laissait à penser que le christianisme en particulier luttait contre la raison.
Pour des raisons, excusez la répétition, dans lesquelles les chrétiens ne sont pas entièrement innocents. Une certaine apologétique a effectivement insisté sur, non pas Dieu sensible au cœur, puisque chez Pascal ça a un sens tout à fait différent. Le cœur de Pascal, ce n'est pas du tout l'affectivité, c'est la faculté des principes. C'est le cœur qui sent qu'il y a trois dimensions dans l'espace. Ce n'est pas vraiment une effusion, ce genre de point de départ d'un raisonnement mathématique. Non, il y a eu effectivement un christianisme sentimental, en particulier au XIXe siècle allemand avec Schleiermacher, au XIXe siècle français avec Chateaubriand, bon, auquel il ne faut pas jeter la pierre, mais enfin qui n'était quand même pas un théologien de toute première force. Il y a eu un catholicisme traditionnaliste avec Lamennais, Félicité de Lamennais, ensuite s'est retourné comme une crêpe et est devenu le chantre d'une sorte de christianisme socialisant assez brumeux. Là, il y a une responsabilité des chrétiens de l'histoire, mais je dirais qu'il y a dans les documents fondamentaux du christianisme, et en particulier dans cette idée suivant laquelle Dieu parle, et Dieu parle de façon intelligible, ne donne pas des commandements arbitraires, mais des commandements qui émanent tout autant de sa sagesse que de sa raison. C'est une idée que vous trouvez dans le judaïsme aussi, n'est-ce pas ? Maïmonide est rempli de cela. Eh bien, cette idée, je crois, pourrait conserver une certaine fécondité.
Je voudrais qu'on observe une petite page musicale et nous reprenons donc la dernière partie de notre entretien.
Napoléon n'aura plus de secret pour vous à l'écoute des nombreuses émissions de Jean Tullard sur Canal Académie. Écoutez Jean Tullard, historien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, en libre téléchargement sur canalacademie.com.
Nous reprenons la dernière partie de notre entretien avec Rémy Brague et on essaye d'avancer un peu dans cette critique que l'on a définie de bonne manière. Vous avez indiqué effectivement que c'était plutôt un tamis pour séparer plutôt que pour critiquer. Et donc on en arrive à la question du christianisme, cette question de cette raison qui devrait se redéployer sur d'autres sphères d'activité plutôt que d'être restreinte sur la seule raison ou la seule idée que la modernité se fait de la raison. Et pour cela, je voudrais reprendre deux éléments que vous indiquez. Le premier, dans donc, la loi de Dieu, vous dites que nos sociétés se pensent avant tout comme des lois sans divin. Et vous ajoutez aussitôt, je vous cite, « Nos sociétés, avec leur programme d'une loi sans divin, sont en fait rendues possibles, en dernière analyse, par l'expérience chrétienne d'un divin sans loi. » Et donc, ça laisserait supposer que la laïcisation, on est là bien dans la reconnaissance de dette, que la laïcisation, cette séparation, serait le déploiement d'un programme chrétien. Donc il y aurait bien une raison, la raison de la séparation, qui serait d'origine chrétienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus
volontiers.
Ce point-là ?
Déjà deux mots sur cette formule qui oppose une loi sans divin et un divin sans loi. Bon, elle se comprend à partir du contexte, il ne faudrait pas l'isoler, parce que je suis tout à fait opposé, pour des raisons philosophiques, mais aussi pour des raisons presque morales, à l'idée suivant laquelle on pourrait se passer d'une loi. Je me permets cette précision parce que il existe aussi dans le christianisme la tentation d'une anomie, c'est-à-dire de remplacer la loi par, alors j'ose à peine dire par de l'amour, parce que ce que l'on appelle ainsi, c'est souvent de l'effusion, de l'affect, du sentiment. Alors que l'amour dont il pourrait être question, eh ben ça serait déjà un infini respect, et pas nécessairement des sentiments tièdes et moites envers autrui. Donc il y a des choses comme ça, par exemple dans Dostoïevski, enfin, c'est certainement pas le meilleur de ce qu'on y trouve. Donc attention à cette formule du divin sans loi. Pour moi, le christianisme, c'est au contraire le dispositif qui permet à l'homme d'obtenir son propre bien, et d'obtenir son propre bien moral, c'est-à-dire de se conformer à la loi. Ce n'est pas le rejet de la loi, c'est le mécanisme qui donne la force de l'accomplir. Pour comprendre la notion de grâce, par exemple, il ne faut pas l'opposer à la loi, comme peuvent en donner l'impression certains passages de saint Paul, sans doute écrits de façon polémique. Il faut regarder l'ensemble de la doctrine de Paul sur la loi, et on s'aperçoit qu'il dit à peu près ce que j'essaye de lui faire dire. Enfin, j'espère. Vous avez parlé de laïcisation. C'est un mot qui est bien difficile à comprendre, et déjà qui est impossible à traduire. Quand je suis en Allemagne, je n'arrive pas à parler de laïcité. Ou alors il faut dire laïcité, c'est vraiment un mot d'emprunt qui n'a pas de sens. Ce qui est commun à tous les pays de tradition chrétienne, qu'ils aient connu le petit père Combes ou qu'ils ne l'aient pas connu, c'est l'idée suivant laquelle le politique et le religieux, ou je dirais même plus généralement, le religieux et le législatif, qu'il s'agisse de politique, qu'il s'agisse de relations entre personnes au sein de la famille, qu'il s'agisse de la loi morale que l'individu choisit de suivre ou de fouler aux pieds, tout cela n'est pas dépendant de la religion. Alors ça existe depuis fort longtemps, ça s'est concrétisé historiquement de différentes façons. Enfin, j'ai essayé de raconter cette histoire en m'appuyant bien entendu sur les travaux de gens bien plus compétents que moi dans la loi de Dieu. Ça existe partout, même dans les États qui ont conservé par exemple un concordat. Il est bien entendu qu'il y a des choses que l'État peut faire et que l'Église n'a pas le droit de faire, et réciproquement. La laïcité à la française, si j'ose ce pléonasme, puisqu'il n'y a pas de laïcité en dehors de la France, hein, c'est comme le béret basque ou la cancoyote, hein, c'est vraiment français, ou la baguette. Ce que l'on appelle la laïcité, c'est une certaine interprétation de cette distinction entre les sphères de la puissance publique et les sphères de l'Église ou des Églises, qui, bon, pour des raisons qu'un historien pourrait vous expliquer 100 fois mieux que moi, s'est concrétisé au début du XXe siècle, après un siècle entier de bisbilles et de tentatives dans un sens ou dans l'autre, entre l'Église et l'État. Mais ce qui est important de voir, c'est que ce que l'on appelle la séparation de l'Église et de l'État ne fait que découper selon un pointillé qui existait déjà. Et je dirais même qu'il existait depuis les origines. Le christianisme a cette particularité de s'être imposé dans l'Empire romain contre l'État romain, qui, à certains moments, l'a même persécuté. On peut dire qu'au moment où le christianisme s'est constitué, a pris conscience de lui-même, Le problème de l'union du trône et de l'autel, c'était vraiment pas son problème le plus urgent, puisqu'il y avait une union du trône et de l'autel, mais c'était, si je puis dire, le trône de l'empereur et l'autel des dieux païens. Donc les chrétiens étaient un petit peu en dehors de cela. Et même après ce que l'on a appelé le tournant constantinien, donc Constantin qui lève la persécution, qui à titre privé se convertit sur son lit de mort à une forme de christianisme d'ailleurs hétérodoxe, il était arien. Même avec Théodose qui, après la grande vague de conversion rendue possible justement par la levée de la persécution, fait du christianisme une sorte de religion officielle de l'État romain, de l'Empire donc, les chrétiens ont développé 1000 stratégies pour éviter que les deux ne soient confondus.
Parce que ce qui est très passionnant dans votre livre, je renvoie nos lecteurs, page 165, 166, 167, c'est que, contrairement à l'idée que l'on s'en fait, donc l'idée de la laïcité, ce serait effectivement que l'État aurait repoussé, que la puissance politique aurait repoussé l'Église en dehors. Et vous vous dites, pas du tout, dans la constitution, dans les éléments constitutifs de cette séparation, la laïcité, je vous cite, vient de l'Église et non l'inverse. C'est-à-dire que c'est elle, l'Église, qui a forcé d'une certaine façon l'État à se retirer de ses prérogatives spirituelles et à se constituer en État autonome. Donc vous dites que ce mouvement-là de séparation, pour prendre une perspective plus large que la seule courte vue du XXe siècle ou du XIXe siècle, que sur la longue vue, cette séparation, elle vient, elle est constitutive de l'Église.
Oui, bon, il faut varier suivant les époques, enfin, vous l'avez noté. La description que vous avez donnée au début de cette séparation, à savoir l'État qui dit à l'Église, bah, écoutez, la porte est par ici, c'est parfaitement vrai pour le XIXe siècle, enfin, pour l'issue de cette longue querelle. Mais à partir du XIe siècle, et dans cette période bon, que l'on a un peu tendance à mépriser, à traiter d'obscure, bon, qui est le Moyen-Âge, et c'est tout le contraire d'une obscurité, c'est au contraire l'Église et les plus hautes autorités de l'Église, le pape en l'occurrence, qui disait implicitement ou explicitement au souverain temporel, bah, écoutez, ne vous occupez pas du sacré, ça on s'en charge, contentez-vous de faire en sorte que règne dans ce monde bon mais provisoire la justice. Contentez-vous de cela. Alors que il y avait de la part de l'Empire, qui était bon l'État, si vous voulez, le plus développé à l'époque, une prétention à la sacralité. On parle du Saint-Empire romain germanique, mais cet empire s'appelait l'Empire romain de nation allemande, parce que les tribus germaines installées dans l'Empire romain jouaient le premier rôle. Mais l'adjectif « Saint-Empire » n'a été pris, si je ne me trompe, qu'au XIIe siècle, et comme justement une revendication de sacralité du pouvoir politique en tant que tel. C'est de cela que ne voulaient pas les papes. Bon, aussi parce qu'ils défendaient, si je puis dire, leur beefsteak, n'est-ce pas ? C'était leur rôle d'avoir accès au sacré et de le communiquer. Quand on prend un peu de recul historique, on joue à front renversé. L'idée suivant laquelle, au Moyen-Âge, c'est l'Église qui est la puissance laïcisante, n'est pas une idée de moi. J'ai trouvé ça chez Jeannine Quillet, par exemple, chez Sir Neville Fegges et chez d'autres auteurs. C'est quelque chose que les historiens de l'époque connaissent, reconnaissent, sans se faire prier.
Qui remet effectivement un peu en perspective ce que nous pourrions considérer à courte vue comme étant ce mouvement effectivement initié par la raison des Lumières. Qui...
Si l'on considère que l'histoire commence en 1789, voire à la crise de 1929, comme on a souvent l'impression chez bien des élèves de Sciences Po, on est condamné à être myope. On ne peut pas prendre le recul nécessaire pour voir les grandes masses se répartir.
Eh bien, écoutez, Rémy Bragg, merci beaucoup donc pour cet entretien qui nous a permis d'être moins myope, d'avoir plus de perspectives historiques et de remettre un peu en situation à la fois votre œuvre et puis effectivement ce que votre œuvre devrait devenir ou va devenir dans le troisième tome de cette trilogie. Et je renvoie nos auditeurs aux différents livres qui sont les vôtres, considérant en plus que ces différents livres sont de plus en plus en poche. Donc il y avait effectivement depuis longtemps Europe, la voie romaine qui est en poche. Du Dieu des chrétiens et d'un ou deux autres va devenir bientôt en poche. Introduction au monde grec, la loi de Dieu aussi. et puis au moyen du Moyen-Âge que j'ai sous les yeux et qui est lui aussi en poche. Donc je renvoie nos auditeurs à votre œuvre qui est, je dois le dire, extrêmement lisible et d'un accès extrêmement facile pour ceux qui ne sont pas particulièrement philosophes. Et donc tout cela permettra d'être couronné, si je puis dire, par donc le Grand Prix de philosophie que vous allez recevoir en décembre par l'Académie française. Merci beaucoup Rémi Brague.
C'est moi qui vous remercie.